Contribuer à la reprise de l'économie, c'est la volonté de la province sud qui a adopté 3 dispositifs en ce sens ce matin. Explication dans un instant. Il y a urgence à accompagner le monde économique sur la voie de la reconstruction. C'est la conviction d'Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, qui vient de passer 4 jours sur le territoire. L'unité médico-judiciaire de proximité, inaugurée en ce moment au CHT, elle va permettre d'accueillir les victimes de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles. À l'étranger, des milliers de fidèles rendent un dernier hommage au pape François. Sa dépouille est désormais exposée dans la basilique Saint-Pierre. Et puis en sport du cyclisme, le patron du peloton, c'est Tadej Pogacar. Le Slovène a remporté cette nuit la Flèche Wallonne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Sud Pro, Sud Santé, Sud Jeune, ce sont 3 dispositifs examinés et adoptés ce matin par les élus de l'Assemblée de la province Sud. Avec ces 3 dispositifs différents, la province poursuit un même objectif, contribuer à la reprise de l'économie. Ces dispositifs ont donc été validés ce matin, Lionel Sabot.
Oui, effectivement, Jean-François, 3 dispositifs pour, vous le disiez, donner un coup d'accélérateur à la reprise économique. Le premier dispositif s'appelle Sud Pro. Il s'agit d'un dispositif temporaire qui s'adresse aux patentés et aux très petites entreprises en difficulté à la suite de la crise économique liée, bien évidemment, aux exactions du mois de mai 2024. Son objectif est d'accompagner à la reprise d'une activité économique et éviter la défaillance des entreprises. L'objectif est également de stimuler la revitalisation des échanges économiques locaux. Une plateforme en ligne sera lancée et les sociétés qui remplissent les critères pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 250 000 francs. Pour ce qui est des bénéficiaires et pour bénéficier de ce dispositif, il faudra avoir son siège social ou sa domiciliation de son activité en province sud, avoir un effectif salarié total compris entre 0 et 2 salariés et bien évidemment être inscrit au répertoire des d'identification des entreprises et des établissements, le RIDET. Il faut noter que sont exclus de ce dispositif notamment les associations ou encore les sociétés immobilières ou les maisons mères, les holdings. Ce premier dispositif a été voté à l'unanimité des élus. Le second dispositif également, il s'agit de Sud Jeune qui propose une aide ciblée pour faciliter l'embauche des jeunes diplômés calédoniens. Pour bénéficier de ce dispositif, il faut avoir moins de 30 ans au 1er mars 2025 et justifier d'une présence sur le territoire de 10 ans de résidence sur le territoire. Enfin, l'Assemblée a voté ce matin le troisième dispositif qui a été baptisé, lui, Sud Santé. Il vise à favoriser, on en parle beaucoup depuis quelques temps, l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour le recrutement d'infirmiers, dispositif qui a été voté là aussi à l'unanimité. Et pour que ce dispositif fonctionne, la province propose la mise en place de kits d'attractivité pour les infirmiers recrutés dans le privé. Il s'agit par exemple d'un kit individuel qui prend en charge une partie du billet d'avion, mais aussi une aide au loyer ou encore une prime d'installation et d'équipement. Ces 3 dispositifs ont été votés il y a quelques minutes à l'unanimité par les élus de la province sud. Depuis l'Assemblée de la province sud, Lionel Sabot, RRB.
Merci Lionel et nous reviendrons sur le dispositif Sud Pro à la fin de ce journal dans les jeudis de l'économie. Nous en parlerons avec Naya Watéou qui est la présidente de la commission développement de la province sud, Charlène Gauthier qui est chef de service de l'ingénierie financière et de l'instruction à la direction du développement économique et touristique de la province, Elisabeth Rivière, la présidente de la chambre des métiers et de l'artisanat, et Stéphane Yotto, le vice-président de la CCI. Économie toujours, et le président de la CCI France termine une mission sur le territoire. Alain Di Crescenzo vient en effet de passer 4 jours en Calédonie pour aller à la rencontre des chefs d'entreprise. Et il était ce matin notre invité à 7h30, Léo Fichou.
Il dit avoir été surpris par l'étendue des dégâts et par le désarroi des dirigeants et des entrepreneurs. Après les violences de mai 2024, la CCI France a apporté une aide de 50 millions de francs pour financer les actions de terrain de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. Une enveloppe qui a servi à plusieurs missions, notamment la mise à disposition de juristes pour les chefs d'entreprise, mais aussi le numéro vert d'accompagnement durant la crise ou encore l'octroi d'une aide à l'embauche de 150 000 francs. Alain Di Crescenzo veut poursuivre le soutien au territoire en apportant l'expertise de CCI France.
La CCI France n'est pas là pour donner de l'argent, elle apporte plutôt de l'engineering et de l'accompagnement. Il y a une situation d'urgence qu'on a traitée. Moi, ce que je voudrais, c'est aider le monde économique, et pas uniquement les chambres de commerce et d'industrie, à imaginer la reconstruction. Parce que la reconstruction, si vous voulez, on ne la fera pas de la même façon. En tout cas, c'est ma recommandation. Autrement, c'est la double peine, si vous voulez. Vous avez souffert et vous refaites les mêmes choses. Donc, c'est refaire différemment dans cet accompagnement peut-être un peu d'engineering pour imaginer les marchés de demain. On s'est positionné sur deux éléments. La formation à l'international. Vous avez des besoins ainsi de maintenance industrielle. Vous avez des besoins aussi dans l'hospitality management, hôtellerie, restauration. Il y a des titres de formation que nous avons au niveau national. C'est permettre de les utiliser ici. Et sur l'international, vous avez un territoire qui est magnifique, mais il a sa dimension. Et donc, j'étais avec l'équipe internationale et des entrepreneurs hier, avec une visée sur certaines destinations, le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji, et là-dessus, les aider pour entreprendre à l'international.
Le président de la CCI France veut désormais accompagner le monde économique sur la voie de la reconstruction. Et pour lui, il y a urgence.
Inquiet, oui. Quand vous avez 50% des entreprises qui vous disent avoir des problèmes de trésorerie, quand vous avez perdu 11 000 emplois, quand l'an dernier, il y a une baisse de l'activité immobilière ou automobile de plus de 50%, je dirais, si on n'est pas inquiet, c'est qu'on est stratosphérique, quoi, hein. J'ai plutôt les pieds sur terre. Donc oui, je suis inquiet. Maintenant, vous savez, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a confiance, qui est un combattant. S'il y avait un point, je voulais souligner, ou un mot, c'est l'urgence. On ne peut plus attendre. Donc il faut absolument relancer l'économie. Il faut arrêter que nos talents quittent la Nouvelle-Calédonie pour aller travailler ailleurs, parce que c'est plus simple, d'accord, et plus sécurisé. Il faut arrêter ça tout de suite. Il faut reconstruire, et encore une fois, ça passera par deux éléments qui sont essentiels pour moi. Donc une accélération des remboursements des assurances, point numéro un, et point numéro deux, absolument faire avancer ce dossier fiscal. Les chefs d'entreprise sont là. Il y a un ventre mou de 40%, ce ventre mou qui dit, si j'ai quelques signaux donc positifs, je vais y aller. Donc il faut miser là-dessus, mais il y a urgence.
À lundi crescendo, le président de la CCI France enverra un rapport à l'Élysée à l'issue de son voyage en Nouvelle-Calédonie.
Et puis notez que c'est aujourd'hui le troisième jour de la conférence sociale et fiscale organisée par le gouvernement sous l'égide de Christopher Gigès en charge de l'économie. Après l'emploi mardi, puis la compétitivité et le pouvoir d'achat hier, les participants planchent aujourd'hui sur la réforme fiscale. La dernière journée demain sera consacrée au bilan de ces quatre jours de travail qui doivent permettre de faire émerger des propositions pour réformer le modèle social et fiscal. Plus de 800 personnes ont assisté à la réunion publique organisée hier soir par les loyalistes à l'hippodrome Henri Meyer de Nouméa. Elles ont pu poser leurs questions à Nicolas Metzdorf, Christopher Gigès, Marie-Laure Ukéoué, Gilles Brial et Sonia Baquès, qui avaient en début de réunion pris la parole à tour de rôle pour tenir les militants et les sympathisants au courant des discussions en cours avec l'État et les indépendantistes. Une démarche d'information utile et nécessaire, estime Gilles Brial, porte-parole des loyalistes.
Les Calédoniens ont besoin de se tenir au courant de ce qui se passe. Ils se posent beaucoup de questions sur les négociations, les discussions qui sont en cours. Donc c'est de les tenir informés de ça, leur expliquer la difficulté de ces discussions qui ont du mal à se transformer en négociations, leur expliquer que c'est difficile d'obtenir un accord quand les indépendantistes ne veulent pas trop bouger. Donc ils ont besoin d'avoir cet ensemble d'informations, et on le fait à chaque fois avant et après la venue des missions Valls.
Et pour répondre à une inquiétude manifestée par les participants, les partisans de la France sont bien engagés dans la recherche d'un accord, mais pour autant, pas question de signer un accord à n'importe quel prix.
Nous, on a un mandat, on est prêt à signer un accord, à condition qu'il corresponde à ce qu'a exprimé la volonté de la majorité des Calédoniens, trois fois non à l'indépendance, qui nous permette d'avoir une Nouvelle-Calédonie qui se sécurise, qui se redéveloppe économiquement, qui permette d'être nouveau attractive, avec un corps électoral qui n'est pas celui d'aujourd'hui, et puis surtout pas avoir d'épée d'Amoclès, c'est qu'on arrête de nous sortir des référendums tous les 5 ans. Donc s'il y a un accord qui correspond à tout ça, évidemment que Nouvelle-Calédonie dans la France, on le signera, mais s'il n'y a pas ça dedans, on n'a aucune raison de le signer, ce n'est pas le mandat qu'on a reçu.
Un exercice d'explication et d'information à quelques jours maintenant de la nouvelle visite de Manuel Valls en Calédonie. Le ministre des Outre-mer doit en effet arriver le 29 avril pour poursuivre les discussions avec les partenaires calédoniens.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS et voici notre question du jour. Est-ce selon vous le bon moment pour lancer une polémique sur le permis de conduire calédonien ? Si vous pensez que c'est le bon moment, vous tapez 1. Si vous pensez que ce n'est pas le bon moment, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 84% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent attristés par le décès du pape François. Ils sont 16% à ne pas partager ce sentiment. À 11h40, la première pause de ce journal. Dans un instant, l'actualité des faits divers et judiciaires dans une nouvelle page consacrée à l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Vous avez envie d'évasion ? Offrez-vous le Vanuatu à prix promo. Le package Port Villa incluant les vols, 3 nuits d'hôtel, les petits déjeuners et transferts est à partir de 56 700 francs seulement. Et le package TANA incluant aussi les vols, 7 nuits d'hôtel et l'excursion au volcan est à partir de 168 900 francs par personne. Alors ne ratez pas ces offres et réservez vite auprès de votre agence de voyage. Plus d'infos sur la page Facebook Office de Tourisme du Vanuatu.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Au chapitre des faits divers, une maison incendiée cette nuit à Tontouta, au sud du village. À l'arrivée des pompiers aux alentours de 7h, la maison était totalement détruite. Le portail d'entrée a été forcé et bloqué l'accès au terrain. La piste criminelle est pour l'instant privilégiée et une enquête est en cours. Fort heureusement, la maison était inoccupée au moment des faits et aucun blessé n'est à déplorer. Du côté de Puebo, on a appris ce matin que l'école primaire de Balade avait été cambriolée le week-end dernier. C'est le personnel enseignant qui a découvert la porte de la cantine fracturée lundi matin, porte réparée dans la journée pour que les classes puissent reprendre malgré le cambriolage. Le ou les voleurs ont notamment dérobé des œufs de Pâques destinés aux enfants. Une enquête a été ouverte par les gendarmes pour identifier ces voleurs. Et puis un homme convoqué par la justice. Il a reconnu avoir agressé un homme de 78 ans lundi matin, place des Cocotiers. L'agresseur, un sans domicile fixe, s'en est pris verbalement à sa victime avant de l'empoigner et de le frapper à de multiples reprises, des coups de pied et de poing, notamment au visage. L'homme a été hospitalisé pour recevoir des soins. Quant à l'agresseur, il a été remis en liberté dans l'attente de son procès. Améliorer la prise en charge des victimes et renforcer la synergie entre le monde de la justice et celui de la santé, c'est le but de la nouvelle unité médico-judiciaire de proximité. Elle est inaugurée en ce moment même au CHT où l'on retrouve Nicolas Legrand.
Oui, la Nouvelle-Calédonie était le dernier territoire de la République à ne pas en être doté. L'unité fonctionne déjà depuis le 19 septembre, mais l'inauguration n'a lieu que ce matin en présence du secrétaire général du Haut-Commissariat, Stanislas Alfonsi, des membres du gouvernement Isabelle Chamorro et Claude Gambet, chargés respectivement des sujets liés à la famille et à la santé, mais aussi du procureur de la République Yves Dupas, de Philippe Faisandier, le procureur général par intérim, ou encore des représentants du monde associatif. Cette unité implantée au Medipôle, entre les urgences adultes et pédiatriques, a pour objectif de prendre en charge les victimes au sein d'un guichet unique. Elles seront examinées pour notamment déterminer la durée d'une éventuelle ITT. Elles pourront aussi consulter un médecin légiste, une infirmière et même un psychologue. Et dans le cas de drame, l'unité sera amenée à pratiquer des autopsies. Elle est aussi chargée de prendre en charge les personnes placées en garde à vue. Une salle d'audition filmée va bientôt être mise en service au sein de cette unité. Il faut rappeler que la justice peut demander un examen d'un mis en cause qui a le droit, quoi qu'il arrive, lui, de consulter un médecin à sa demande. Entre septembre dernier et fin mars, l'unité a déjà réalisé près de 2000 actes. Elle a reçu 500 gardés à vue, 1300 consultations de victimes, dont 60% de femmes. 30% de ces victimes sont par ailleurs des mineurs. Il s'agit principalement de violences conjugales et intrafamiliales ou encore de violences sexuelles. L'unité, je le rappelle, s'occupe des vivants, mais aussi des personnes décédées. Elle a réalisé 29 autopsies et 44 examens externes de corps. Cette UMJP est présentée comme un outil essentiel pour rendre une justice plus humaine et améliorer la prise en charge des victimes. L'investissement est de 300 millions de francs et elle a été financée dans le cadre des contrats de développement. L'État a payé les deux tiers de la facture et le gouvernement le reste. Quant au fonctionnement annuel de l'unité, il sera assuré par le ministère de la Justice à hauteur de 120 millions de francs. Au Midi-Pôle de Coutiot, Nicolas Legrand, RRB.
Infomag, il est 11h44.
425 jeunes de B1 ont atteint la majorité entre le 28 février 2024 et le 28 février 2025 et ils ont reçu hier soir leur passe d'entrée dans la vie citoyenne. Ils se sont vus en effet remettre leur carte d'électeur lors d'une cérémonie de la citoyenneté qui s'est déroulée à la mairie de Dumbéa en présence du maire. Cette carte leur permettra d'exercer leur droit de vote lors des prochaines élections et dans le contexte de crise que traverse la Nouvelle-Calédonie, ces nouveaux électeurs sont bien conscients de la nécessité de faire faire usage de cet outil démocratique.
Ça représente l'opportunité de s'exprimer, d'exprimer nos choix politiques, ce qui est important dans la vie adulte. C'est important surtout pour les femmes qui se sont battues pour avoir ce droit de vote.
Je suivais déjà tout ce qui était politique, mais en généralité. Mais là, je pourrais plus m'intéresser vu que j'aurais un impact sur tout ça.
On a plus de responsabilités. On est considérés comme des adultes maintenant, quoi. Dans la situation aujourd'hui, c'est un devoir par rapport à ce qui s'est passé et aux événements. Alors oui, on a plus de responsabilités à aller voter maintenant.
Ça reste très important pour nous parce que quand même, comme l'a dit le maire, on doit ouvrir les yeux en fait sur l'évolution de la prochaine ère, de ce qui va arriver plus tard. C'est nous qui devons construire l'avenir aussi. Donc en fait, j'essaie d'être le mieux préparé, pouvoir savoir ce que je vote, ne pas voter à l'aveugle. Surtout chez nous aussi, on a eu pas mal de tensions, ça a été très compliqué pour tout le monde. Et je pense que le droit de vote peut vraiment faire évoluer les choses ici, si on s'y met tous ensemble.
Une cérémonie de la citoyenneté à laquelle a également assisté la commissaire déléguée en province sud, Catherine Merx. Notez d'autre part que le conseil municipal de Dembéa se réunit ce soir à 17h30, essentiellement autour de délibérations concernant le lancement d'appels d'offres ou l'aménagement du territoire communal. Et puis l'association française des maires de Nouvelle-Calédonie est elle aussi réunie ce matin en assemblée générale avec plusieurs points à l'ordre du jour, notamment la présentation de la plateforme Circuit Pro et de l'annuaire Réparacteur, des outils numériques pour répondre aux problématiques locales de réduction des déchets. Autre point évoqué ce matin, l'appel à projet national Atlas de la biodiversité communale 2025 de l'Office français de la biodiversité. Cette démarche permet aux communes de connaître, préserver et valoriser leur patrimoine naturel. Assemblée générale qui s'est ouverte à 9h à la mairie de Nouméa. Il est 11h47, une nouvelle page de publicité. Dans un instant, on prendra la direction de Rome, où les fidèles sont très nombreux à venir rendre un dernier hommage au pape François.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le plaisir n'a pas d'âge. Rendez-vous les 25 et 26 avril à la Maison des Artisans pour la 4e édition du Salon des Seniors. Que vous soyez un senior actif cherchant de nouvelles activités ou un proche souhaitant découvrir les services d'aide et de santé pour soutenir nos aînés, le Salon des Seniors est conçu pour vous. De nombreuses animations seront au programme avec des parcours de santé, des ateliers ludiques et des thés dansants, mais également des sujets au cœur de l'actualité. Épargne retraite, santé, soins à domicile, c'est également l'occasion de découvrir sur place la carte senior et bénéficier d'offres préférentielles dans plus de 200 enseignes partenaires. Un événement Pacific Fair en partenariat avec la carte senior, EasyLock, Toyota et RRB.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine ? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité religieuse, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Et c'est un défilé ininterrompu autour de la dépouille du pape François. Le corps du souverain pontife décédé le lundi de Pâques a été transporté de la maison Sainte-Marthe à la basilique Saint-Pierre. Les fidèles peuvent donc venir lui rendre un dernier hommage auprès de son cercueil ouvert. Et il leur faut souvent de longues heures d'attente avant de pouvoir pénétrer dans la basilique, ce qui ne semble pas les décourager, comme l'a constaté Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome.
Fidèles, pèlerins, touristes du monde entier se côtoient dans les immenses files. Tous serpentent sur la place Saint-Pierre. Des centaines d'autres personnes arrivent toujours en ce moment même, venant des rues adjacentes ou en remontant la longue allée de la Conciliation qui fait face à la basilique. Cette religieuse salésienne de Don Bosco est d'origine nigériane.
Bien sûr, je vais attendre jusqu'au moment où ça sera mon tour. Je vais attendre parce que pour voir le pape, pour moi, c'est quelque chose aussi de significatif. Et il a vécu sa vie très belle, très touchant à nous tous qui sommes fidèles de l'Église catholique, mais aussi des autres confessions. C'est un pape de tout le monde.
À la sortie de la basilique, il y a parfois des larmes dans les yeux, plus souvent des visages rayonnants. Francesca est venue de Milan et a patienté de longues heures pour s'incliner devant le cercueil du pape François.
Je suis arrivée à 10h et je suis entrée à 15h30. Puis je suis restée à l'intérieur pour la messe, c'était vraiment sympa. Comme revoir un ami qui n'est plus là, mais on aurait dit qu'il était toujours en vie. C'était vraiment très sympa. L'attente en valait la peine.
Et vu la grande affluence toute la journée, et y compris ce soir, la salle de presse du Vatican a indiqué que la basilique pourrait rester ouverte après minuit pendant quelques temps encore. Le pape, lui, sera toute la nuit veillé sous la coupole de Saint-Pierre.
Et le corps du pape François restera exposé pour les hommages des fidèles jusqu'à vendredi 19h, heure de Rome. Le cardinal Kamerling, c'est-à-dire le cardinal Kevin Farrell, présidera alors une cérémonie pour la fermeture du cercueil avant les obsèques qui auront lieu samedi à 10h, toujours heure de Rome, c'est-à-dire 19h, heure de Nouméa, sur la place Saint-Pierre. Des obsèques qui se dérouleront en présence de nombreuses personnalités, chefs d'État et de gouvernement. 2000 agents des forces de l'ordre sont mobilisés pour cette sécurité et une zone d'exclusion aérienne est déjà en place au-dessus de Rome, 24 heures sur 24. Les cardinaux du monde entier seront présents pour ces obsèques et notamment les 135 d'entre eux qui participeront au conclave pour désigner le successeur de François. Ils arrivent au fur et à mesure à Rome et participent déjà aux congrégations générales sur l'avenir de l'Église. C'est un moment très important pour eux. Louise Salé pour Europe 1.
C'est le cas du cardinal corse François Bustillo, fraîchement arrivé hier. C'est son premier conclave puisqu'il a été nommé cardinal en 2023 par François.
Je suis à Sainte-Marthe et donc je ne connais pas tous les cardinaux ou je les connais d'une manière un peu légère. Donc là, on va avoir la possibilité de parler, de dire notre vision de l'Église. On va s'écouter, on va se connaître, on va discerner et à la fin, on va décider.
Mais ces réunions quasi quotidiennes sur l'avenir de l'Église, appelées congrégation générale dans la résidence Sainte-Marthe, ne sont pas les seuls moments pour échanger. Michel Kubler, prêtre assomptionniste et vaticaniste, connaît bien les habitudes des cardinaux.
Ah, on est ici à deux pas du Vatican, dans le quartier qu'on appelle le Borgo. Et là, il y a une multitude de restaurants où les cardinaux savent se retrouver et surtout sûrs d'être reçus discrètement dans une table un peu à l'écart où ils peuvent parler, voire même dans une arrière-salle où ils sont entre eux dans le secret le plus total. Et vous pouvez être sûr qu'ils se servent de ça.
Ces discussions permettent de dessiner le profil du futur pape avant même l'entrée en conclave, mais elles s'intensifieront surtout après les funérailles de François.
Et la mort du pape François continue de susciter des réactions, y compris dans la région Pacifique, région qui sera d'ailleurs représentée au conclave par les quatre cardinaux océaniens, la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ces quatre cardinaux ont pour nom Soane Mafi, évêque des Tonga et de Niue, John Ribat de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nicolas Bitchock d'Australie et John Dew de Nouvelle-Zélande. Ces quatre prélats figurent parmi les cardinaux qui auront pour mission d'élire le nouveau souverain pontife. Le décès du pape François vient par ailleurs de faire l'objet de commentaires officiels dans le Pacifique Sud, à commencer par celui du premier ministre papou, James Marape, qui a déclaré que, je cite, « Sa disparition est une perte pour l'humanité tout entière. Il était un père spirituel pour plus d'un milliard de catholiques à travers le monde », a-t-il ajouté, « et son message était un message d'unité, d'inclusion et d'espoir. L'héritage de foi, de compassion et de service que François laisse derrière lui continuera d'inspirer des générations au sein de l'Église catholique et au-delà, a quant à lui déclaré le chef du gouvernement fidjien, Sitiveni Rambuka. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et je vous rappelle qu'une messe en hommage au pape François sera également célébrée demain soir à 18h à la cathédrale de Nouméa. Célébration présidée par l'archevêque de Nouméa, Monseigneur Sione Poé. L'actualité à l'étranger, c'est aussi le nouveau coup de pression de Donald Trump sur Volodymyr Zelensky. Les deux hommes devraient d'ailleurs se rencontrer en marge des obsèques du pape à Rome auxquelles ils assisteront tous les deux. Le président américain s'agace de ne pas constater de progrès dans les discussions sur un cessez-le-feu en Ukraine. Volodymyr Zelensky peut avoir la paix ou il peut se battre encore pendant 3 ans pour perdre tout le pays, s'est énervé Donald Trump. Son vice-président J.D. Vance a menacé lui de stopper la médiation américaine et il propose aux deux parties de faire des concessions territoriales.
Maintenant, bien sûr, cela signifie que les Ukrainiens et les Russes devront tous deux abandonner une partie du territoire qu'ils possèdent actuellement. Il va falloir qu'il y ait des échanges territoriaux, alors je ne dirai pas les lignes exactes, mais nous voulons que les meurtres cessent et la seule façon d'arrêter vraiment le massacre est que les armées déposent toutes les deux leurs armes pour geler la situation et pour construire une Russie et une Ukraine meilleures.
Le vice-président américain J.D. Vance qui propose également de geler les lignes de front proches de ce qu'elles sont aujourd'hui. En métropole, 65 attaques contre le milieu carcéral ont été recensées ces 10 derniers jours. Il ne peut s'agir que d'une action coordonnée que les pouvoirs publics attribuent aux narcotrafiquants en réaction à la préparation d'une détention plus stricte pour ceux d'entre eux qui sont incarcérés. L'une des dernières prisons prises pour cible, c'est celle de Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère où s'est rendu le Premier ministre. Il s'agissait, a expliqué François Bérou, de soutenir le personnel pénitentiaire.
Il s'agissait de montrer au personnel pénitentiaire qu'on était avec eux dans ces circonstances. Notre présence signifie que nous sommes absolument déterminés. Et d'une certaine manière, ces attaques montrent que l'action du gouvernement et de l'État touche juste. Ce sont des réseaux qui croyaient qu'ils étaient en situation d'impunité, les maîtres absolus, et qui tout d'un coup voient la perspective de détentions plus sévères, plus rigoureuses, sans les moyens de continuer à exercer leurs activités néfastes depuis la prison.
Et lors de ce déplacement, François Bayrou était accompagné par les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Au chapitre social, 600 postes menacés dans le nord de la France. Ce sont les salariés des 7 sites ArcelorMittal, le deuxième aciériste mondial qui justifie cette éventualité par un contexte global difficile pour l'industrie de l'acier en Europe. Si ce plan était mis en œuvre, ce serait un désastre social, selon Gaëtan Lecoq, délégué CGT du site ArcelorMittal de Dunkerque.
Si ArcelorMittal y tombe, ça va être une catastrophe sociale. On n'arrivera pas à se relever. Ici, il n'y a aucun membre de sa famille qui n'a pas travaillé chez Arcelor. Voilà où on en est. Arcelor, la sidérurgie, tout le monde l'a dans le sang, directement ou indirectement. C'est comme ça ici chez nous. On pourra faire tout ce qu'on veut, des usines de batterie, tout ça. Déjà, moi, j'y crois pas trop, mais on pourra pas se relever. Les salariés sont pas bien, il y a un mal-être. Il y a de plus en plus de risques psychosociaux, il y a de plus en plus de salariés qui sont en burn-out. Voilà où on en est aujourd'hui. Il y a de plus en plus de démissions, on est à un nombre de démissions record. Et c'est pas avec les annonces d'aujourd'hui que ça va améliorer les choses.
Le délégué CGT du site ArcelorMittal de Dunkerque, interrogé par nos confrères d'Europe 1 à 11h57 dans quelques secondes. La dernière pause de ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Venez découvrir la suite de la programmation du Théâtre de Lille, La Dernière Allumette, Lumière des Misérables, un spectacle magique, onirique et poétique. La rencontre improbable de la jeune fille aux allumettes et de Gavroche dans le tumulte de la Révolution. Ne ratez pas ce spectacle à voir seul, en couple ou en famille, samedi 26 et dimanche 27 avril à 18h. Réservation sur ticket.nc.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par le cyclisme et cette nouvelle victoire pour Tadej Pogacar. Le Slovène a en effet remporté cette nuit la Flèche Wallonne, Léo Fichou.
Le leader de la Team Emirates a signé le plus gros écart sur cette classique depuis 2003. Tadej Pogacar a placé une accélération à 400 mètres de l'arrivée dans le mythique mur de Huy et s'est imposé avec 10 secondes d'avance sur le Français Kevin Vauclin, qui termine deuxième comme l'an passé, et 12 secondes d'avance sur le Britannique Tom Pidcock. Prochain rendez-vous pour les coureurs, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi pour nous avec Liège-Bastogne-Liège.
En tennis, on va prendre des nouvelles du premier tour du Masters 1000 de Madrid.
La nuit dernière, 7 Français étaient sur les courts et 4 ont réussi à se qualifier pour le deuxième tour. Gaël Monfils, Arthur Hinderknecht, Benjamin Bonzi et Harold Maillot, tombeur de notre tricolore Corentin Moutet. La nuit prochaine, on retrouvera Alexandre Muller face à David Goffin, mais aussi Quentin Alice face à Luciano Darderi. Je rappelle qu'Arthur Fils et Hugo Humbert, tête de série de ce tournoi, de ce Masters 1000 de Madrid, sont directement évidemment qualifié pour le deuxième tour. Et puis un mot des dames aussi, puisqu'il y a également l'ATP 1000 de Madrid en ce moment. Seule Diane Paris s'est qualifiée pour le deuxième tour. Elle a battu la Belge Irina Camelia Begu. De son côté, Varvara Gracheva s'est inclinée en 3-7 face à Lulu Sun.
En judo, l'équipe de France a déjà décroché 4 médailles lors de la première journée des championnats d'Europe. Shirin Boukli et Daiki Bouba en or, Walid Kiar et Lucas Mekidze en bronze. Le Calédonien Alexis Mathieu, chez les moins de 90 kilos, doit entrer dans la compétition demain en fin de journée pour nous. Et puis sur le territoire maintenant du football, après des mois d'attente, la Super League va enfin reprendre.
Oui, la date de reprise n'a pas encore été officiellement annoncée par la Fédération Calédonienne de Football, mais ce n'est plus qu'une question d'heures, peut-être même de minutes. La FCF doit communiquer dans la journée. Après des semaines de discussions, de négociations entre les élus et la Fédération et les clubs de Super League, la compétition reprendra, notez bien, le samedi 17 mai, soit un mois et demi après les U17. Ils étaient les premiers à retrouver les terrains sur le territoire. Cette saison, la Super League devrait se disputer dans un format modifié, adapté à la situation de reprise après une saison blanche. Le championnat classique réunissant toutes les équipes devrait être remplacé par deux poules, puis par des phases finales. Enfin, il n'y aura pas que le football qui reprendra le samedi 17 mai, puisque la reprise est aussi annoncée pour le futsal.
Merci Léo, c'est la fin de ce journal. Il est midi.